Donc, nous avons une heure. Nous essaierons de vous garder un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour vos questions. Alors, préparez-les tout de suite parce qu'on va vous demander des questions. C'est bien connu. Donc, sujet tout à fait excitant. Nous l'avons intitulé Arsène, Sherlock, Fantomas et les autres. Et nous avons donc un plateau qui va sûrement vous passionner. Donc d'abord, Adrien Goetz, qui a déjà un nom de pièce, un nom de dramatique. On pense à ce héros à la main de fer.
Oui, dans Le diable et le bon Dieu de Sartre.
Par exemple,
oui. Et puis dans Goetz von Berlichingen de Goethe.
Voilà, bon, de Goethe, oui.
Mais ça, ce sont de grands
mais
exemples.
Mais bon, il y a quand même du super héros depuis déjà longtemps.
Je n'avais pas du tout pensé à ça.
Si, mais voilà. Donc, Adrien Goetz, je ne vais pas tout raconter, mais agrégé d'histoire quand même, normalement agrégé d'histoire. Oui.
Alors, je m'efforce d'oublier tout ça pour écrire La nouvelle vie d'Arsène Lupin. Ça, c'est mon autre vie que vous révélez tout de suite. Alors que...
Je la révèle tout de suite, mais Arsène Lupin avait quand même un sens du passé qu'on ne peut pas gommer.
Bien sûr.
Voilà. Spécialiste du 19e siècle, on a le droit de le dire.
Oui,
quand même. Et donc, si mes renseignements sont bons, mais on a été quelques-uns à avoir des erreurs retentissantes, donc maintenant j'y vais sur la pointe des pieds. Vous avez commencé à écrire des romans en 2004.
Oui.
Et vous avez eu le prix Roger Nimier. Que je ne sais quel site, traduit par Roger Minier d'ailleurs, mais je pense
que... C'est une grave erreur.
Qu'il s'agissait bien de Nimier, hein, donc un beau nom pour un beau prix, je
bien
suppose.
Sûr,
hein. Ouais. Voilà, et puis avant Arsène, une série de polars... de polar artistico-conservatorien.
Oui, avec une héroïne, Pénélope, qui est une conservatrice de musée et qui, dans Intrigue à Versailles, Intrigue à Giverny, enfin, il y a quatre volumes pour le moment. Mène des enquêtes dans le monde de l'art et le monde du marché de l'art, des collectionneurs, des conservateurs. Mais tous mes romans ne sont pas des romans policiers.
Non, hein, non.
On s'était vu, je me souviens, pour un roman que j'avais écrit ici à Saint-Malo qui s'appelle Le coiffeur de Chateaubriand.
Oui, exactement.
Et qui est un roman du 19e siècle, dont l'action se situe au 19e siècle et qui partait d'une œuvre qui m'avait fasciné ici au musée de Saint-Malo quand j'étais allé voir le magnifique portrait de Chateaubriand par Giraudet. Vous vous souvenez où il a les bouclettes dans le vent de l'histoire, la quintessence du portrait romantique. Il y a dans la même salle au musée de Saint-Malo, certains d'entre vous connaissent, une composition ahurissante qui montre la chambre natale de Chateaubriand dans la rue d'à côté, faite en cheveux de Chateaubriand, fixée sous verre par celui qui, pendant 10 ans, a été son coiffeur.
Il avait tout ramassé.
Voilà, et qui avait une telle fascination pour l'image du grand écrivain qu'il ne jetait aucun des cheveux qu'il découpait à la tête de l'illustre Chateaubriand. Et donc, pendant 10 ans, il a eu toutes les teintes de la palette, hein, du brun au blanc, et il a fait des compositions en cheveux de Chateaubriand qui ont toutes été cassées, qui ont disparu, mais il en reste une qui est au musée de Saint-Malo et qui m'a donné l'idée d'écrire Le coiffeur de Chateaubriand.
Voilà. Et c'est vrai que ces critiques, ou ceux qui pouvaient être parfois agacés quand même par le vicomte, lui reprochait justement, il a des dents, il montre ses fort jolies dents et il arrange beaucoup ses bouclettes.
C'est une génération de grandes fantaisies capillaires.
Oui,
il y a une expression capillaire dans ces années-là qui est...
Et de grandes coquetteries.
Chez Chateaubriand.
Voilà. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'élégance 19e de votre héros, Arsène Lupin, est toujours quelqu'un.
Qui a une élégance.
Qui a une grande élégance. On pense Frac, on pense Huit Reflets, on pense...
Mais il a en plus un côté voyou que Chateaubriand n'avait pas toujours.
Non,
moi qui l'ai bien connu.
N'avait généralement pas, non. Ne pensait même pas avoir. Donc, à côté d'Adrien Goetz, nous avons Xavier Fournier, alors qui a vraiment fait un livre extraordinaire. Moi, j'ai trouvé extraordinaire Les super-héros. Bon, les super-héros, oui, mais français, monsieur.
Et, il ne s'agit pas de revendiquer...
Non, je plaisante, évidemment, la formule vient trop facilement. Mais c'est vrai qu'on en connaît quelques-uns. Moi, je n'aurais jamais imaginé une telle abondance, une telle richesse, des filiations aussi complexes, et pratiquement jusqu'à aujourd'hui.
Oui, à part dans les années 90, où je ne sais pas pourquoi, peut-être que les mangas ont attiré les dévocations, des choses comme ça, où je n'ai pas trouvé beaucoup de créations de super-héros français, mais on peut remonter... on peut remonter en fait au 19e siècle d'une certaine manière si on considère les proto-super-héros. Et à partir de là, chaque décennie a vu des dizaines de personnages qui sont, alors qui selon les cas, annoncent des personnages comme Batman ou Superman, et puis dans d'autres cas, les accompagnent. Alors il ne s'agit pas de dire que les Américains nous ont tout piqué. Moi, je compare ça plutôt à la généalogie. C'est-à-dire qu'il y a des idées au 19e siècle qui ont traversé l'Atlantique dans un sens, qui sont parties de chez nous pour aller aux États-Unis, en particulier Dumas. Je pense que vous devez
le Comte de Monte Cristo, voilà, c'est le super-héros.
C'est mon point de départ, d'ailleurs. Oui. C'est mon point de départ. Les idées de Dumas sont parties aux États-Unis. Elles ont eu un succès énorme. Il y a eu un nombre de romans apocryphes. Alors, je dis des fois en plaisantant, il y a presque le chien de Monte Cristo, mais il y a eu la fiancée de Monte Cristo, la fille de Monte Cristo, le fils, enfin il y a eu tout. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle les pulps, donc des romans de guerre où il y avait beaucoup de personnages masqués. Et puis inversement, aux États-Unis, il y avait ce qu'on a appelé le roman de prairie. Alors ça serait plutôt l'ancêtre du western, mais de façon littéraire, où forcément les gens réglaient leurs problèmes à coups de pistolets, de duels et de choses comme ça. Et on n'attendait pas
le roman de prairie, c'est déjà chez Chateaubriand, c'est Atala,
oui,
c'est
le premier roman.
Et donc les deux se sont mélangés et ça a donné deux branches cousines. Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux la branche américaine. La branche française, elle a existé un petit peu dans son coin. Et vous savez, c'est un peu comme les gens qui font de la poésie sans le savoir. C'est-à-dire que des fois, il y a même des auteurs qu'on a produit sans réaliser ce qu'ils faisaient.
Et alors, le troisième, Fabrice était là hier pour Hollywood Monster, donc le dernier épisode, les dernières aventures.
Le dernier volume, oui.
Le dernier volume.
De la série Les Singleton et Trelawney.
Chronologiquement. Ouais, bien sûr. De ces deux détectives, Trelawney et Singleton. Et je reviens sur ce que je disais hier, parce que Trelawney est quand même un personnage, c'est juste de l'autre côté, hein, la Cornouaille, et c'est quand même un de ces personnages, un de ces smugglers, un de ces hommes de mer qui sont toujours entre deux légalités, la leur et puis l'officiel. Et l'autre nom m'avait absolument ravi, parce que Singleton, c'est un whisky relativement connu maintenant, qui a été rare à un moment, c'est vrai. Et je me disais, quel joli choix quand même de titre.
Mais je sens que la question vous titille, donc je vous réponds quand même qu'au départ c'était pas le whisky, mais c'était le singleton pour les jeux de cartes.
Ah oui, d'accord.
Qui est une figure solitaire.
Oui, le solitaire.
Donc
oui.
Dans le mot singleton, il y avait l'idée d'abord le single, hein, oui. Un comportement de train, oui, le single, oui. C'est un comportement, une place. C'est un personnage qui est à tendance légèrement neurasthénique et solitaire, et qui s'adjoint à un acolyte, Trelawney, qui va lui permettre de résoudre les enquêtes et d'avoir un côté actif, dynamique.
Oui, et celui qui a toujours un livre dans sa poche et qui réfléchit,
que lui
qui rêve,
naturellement, oui, moins. Lui, oui. C'est le lecteur, l'érudit, qui passe son temps à bouquiner.
Qui va cheminer, oui.
Les histoires commencent toujours en général alors qu'il est sur son canapé en train de lire un recueil de poésie ou un roman d'un auteur qu'il passionne. Et la plupart du temps, les enquêtes policières qu'il accepte sont soit parce que des gens qui ont un lien avec la littérature viennent le solliciter, ou parce que lui-même va faire des recherches. Dans le volume numéro 2, par exemple, Les Portes du Sommeil, il part au départ à Paris pour enquêter sur la mort de Gérard de Nerval. Donc les histoires se situent dans les années 30, mais lui, passionné par Nerval, part à Paris qu'il voudrait
savoir ce qui s'est passé.
80 ans après, est-ce qu'il est encore possible de savoir comment Nerval est mort ? Alors il y a de fortes présomptions pour que ça soit un suicide, mais à l'époque, il y avait effectivement des théorie comme quoi il aurait pu être
assassiné. Oui.
Donc on part à Paris pour résoudre le mystère de la mort de Nerval. Il va être embringué dans une autre affaire qui est une sorte de clin d'œil à Rouletabille et au personnage de Gaston Leroux. Et au départ, c'est la raison pour laquelle je figure sur cette tribune, le personnage emblématique qui a servi de moteur et en tout cas de démarreur à la série, c'est évidemment le personnage de Sherlock.
Bien sûr, voilà.
C'est à la fois un des prototypes qui m'a servi pour élaborer mes personnages, et c'est surtout un personnage qui apparaît dans le premier volume, le fantôme de Baker Street.
C'est là où Madame.
Et c'est là où la veuve de Lady Conan Doyle vient solliciter mes personnages pour les faire enquêter sur des meurtres étranges qui sont à Londres en 1932.
Oui, je reviendrai là-dessus. Peut-être parce qu'autour de Conan Doyle, vraiment, il y avait quand même toute cette mouvance de spiritisme.
Ce qui m'a façonné, j'allais dire,
l'absus
révélateur, fasciné. C'était à la fois le côté, bon, le personnage de Sherlock Holmes inventé par Conan Doyle, mais moi, la vraie figure qui me passionnait, c'était Conan Doyle.
C'est Conan Doyle qui est tout
c'est
à fait extraordinaire, oui.
D'abord parce que c'est l'un des rares. Maurice Leblanc a été un petit peu dans ce cas-là aussi avec son personnage d'Arsène Lupin, mais c'est vraiment le type même de l'écrivain qui a été complètement dépassé par sa
bouffé
créature.
Bouffé par sa créature, oui.
Qu'il n'a
pas réussi à la tuer d'ailleurs.
En tout cas, qu'il a voulu tuer.
Oui.
C'est un des rares aussi exemples de crime de fiction. En tout cas, l'auteur tue son personnage, oui, et le personnage va revenir, va ressusciter. Et va manquer lui faire la peau à lui, Arthur Conan Doyle. Et ce qui m'avait intéressé, c'est que Conan Doyle invente le personnage de Sherlock Holmes dans les années 1878-79. Il met en place un prototype de détective qui va être l'ultra-rationaliste, le personnage qui va tout faire fonctionner sur la raison et l'intelligence, alors que par ailleurs, Conan Doyle était déjà fasciné par le spiritisme.
Complètement, oui, au point de créer sa propre église spirit.
Alors, il n'a pas
créé sa propre... Parce qu'il n'était pas tout à fait dans la mouvance
stricte. En
tout
cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu de plus en plus spirit au fur et à mesure où il a avancé en âge. Bon, et après, il y a eu des drames familiaux.
Il y a eu les malheurs, les pertes des membres de sa famille. Oui.
Mais en tout cas, les 30 dernières années de sa vie, il est devenu un fervent adepte du spiritisme, tant et si bien qu'il passait son temps à faire des conférences partout à travers la planète, et qu'il s'est même, on peut dire, crédibilisé en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que les dernières années de sa vie, il était surtout vu comme un vieil écrivain spirit, oui, auquel plus personne ne donnait vraiment crédit. Je parle des 10 dernières années.
Vraiment la fin, quoi, oui.
Et un des éléments qui a servi de déclencheur à l'histoire, je le raconte quand même parce que c'est quand même épatant cette histoire, c'est que quand Conan Doyle invente le personnage de Sherlock Holmes, tout le monde connaît l'adresse du 221 Baker Street. Oui. Quand il donne l'adresse, pour ne pas avoir de problème avec un éventuel locataire qui habiterait au 221, il invente l'adresse. Baker Street était plus courte,
oui, plus courte
qu'aujourd'hui.
Oui.
Elle était prolongée par York Place et Upper Baker Street. Et donc, la rue s'arrêtait au numéro 44-45. Oui. Et quand il est mort en 1930, la mairie de Londres a prolongé Baker Street et donc a absorbé tous les tronçons qui étaient dans la continuité. Et le numéro 221 a été attribué réellement,
oui,
à une maison qui en plus ressemblait à l'identique à celle que décrivait Conan Doyle dans son
sauf qu'à l'intérieur, on a rajouté une ou deux marches. Enfin,
on la
pour
visite
que tous
aujourd'hui. Oui.
On
alors,
la visite, oui.
Il y a le pub Sherlock Holmes.
Oui, mais elle a été détruite pendant le Blitz, cette maison-là, et celle que maintenant, qui sert pour le musée, oui, Sherlock Holmes, n'est pas la réelle maison de l'époque.
Donc elle est encore plus proche de ce qu'il y a dans les romans.
En 1930, le 221 Baker Street est devenu une réalité. Et j'ai amalgamé ça, évidemment, entre le fait que le 221 commençait à s'est mis à avoir une existence réelle, le fait que Conan Doyle étant un spirit convaincu, une fois qu'il a été mort, tous les spirits à travers la planète n'ont eu qu'une chose en tête, c'est de tenter d'entrer en contact avec l'esprit de Conan Doyle, se disant à juste titre que s'il y a bien un individu sur la planète qui, une fois mort, va tenter d'entrer en contact avec les humains, avec les vivants, c'est bien Conan Doyle, puisqu'il a passé les 30 dernières années de sa vie, oui, à tenter de faire la même chose, oui, dans le sens inverse. Oui. Et effectivement, en 1932, il y a eu une séance spirit à Halifax, au Canada, où la médium est censée être entrée en contact avec l'esprit de Conan Doyle. On trouve sur Internet, vous tapez « The Conan Doyle's Return » et vous tomberez sur cette photo qui m'a servi de base à mon bouquin,
oh, oui,
où on voit la médium écrasée sur son fauteuil avec cette fameuse coulée d'ectoplasme,
oui, oui, oui,
et où apparaissent trois visages. Le visage de Conan Doyle avec sa grosse moustache oui, de morse, un visage de jeune fille et le visage d'un vieillard assez énigmatique. Et c'est ce qui va, en tout cas, être le déclencheur de l'histoire du fantôme de Baker Street.
Et tous ces fantômes, c'est vrai qu'on pense évidemment à la littérature anglaise. Doyle était écossais et irlandais.
Écossais de naissance, irlandais par
sa famille
origine,
était irlandaise,
voilà,
et installée en
exactement,
Écosse. C'est-à-dire qu'il était quand même soumis d'entrer à ces phénomènes qu'on appelle aujourd'hui paranormaux, faute de mieux. Il a baigné dedans dans son enfance et il guérissait. Vous disiez qu'il ce besoin d'entrer en contact, il guérissait aussi la plaie d'un fils dont le père était fou et voyait des fées. Il voyait des créatures étranges et dessinait tout ce qu'il rencontrait dans Hyde Park
tout
et autres.
Je vois que vous connaissez bien le personnage.
Un petit peu, je suis assez fasciné par ce personnage.
Et le personnage des fées qui va aussi, alors c'est un peu le retour de la médaille, c'est-à-dire que le retour de bâton plutôt, c'est-à-dire que c'est une histoire de fées qui va le crédibiliser. Oui. Le fameux épisode des fées de Gottingley, avec ces jeunes filles qui se sont amusées à faire des montages pour faire croire qu'elles avaient pris en photo des fées qui se trouvaient dans leur jardin. Et l'un des rares personnes, une des rares personnes à avoir cru Mordicus.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, c'est Conan Doyle. Oui. Et ça a vraiment fait partie du moment où il a commencé à être complètement décrédibilisé sur la scène littéraire.
Mais avant ça, il y en a d'autres qui ont tenté de le décrédibiliser.
Oui, mais qui ont un peu des histoires similaires. Parce que quand aujourd'hui on va à Étretat pour visiter le Clos Lupin, la maison que Maurice Leblanc avait rachetée à l'éditeur Fasquelle et qu'il avait transformée en plantant lui-même le jardin, en créant un domaine à l'image d'Arsène Lupin et de ses aventures, on nous montre pendant cette visite les petits verrous que Maurice Leblanc, dans les dernières années de sa vie, avait fait mettre à chaque porte et à chaque fenêtre de peur qu'Arsène Lupin ne vienne se matérialise et ne vienne frapper, toquer au carreau et hanter ses dernières nuits parce qu'il n'en pouvait plus de ce personnage de Lupin. Et Lupin, pour lui, existait et venait le voir.
Alors on rejoint Maupassant, là.
Alors on rejoint parfaitement Maupassant, c'est le hors-là,
c'est exactement ça.
D'autant plus que, Xavier l'a très bien dit à l'instant, il y a une vraie filiation littéraire de tout ça.
Oui.
C'est-à-dire que Maurice Leblanc, dans sa jeunesse, il est né dans cette Normandie, il a vécu aux environs de Rouen, dans le culte de Flaubert et de Maupassant, dont il a les photographies dans son bureau. Il est venu au monde parce que c'est le docteur Achille Flaubert qui l'a accouché, le propre frère de Gustave Flaubert, et son ambition, c'est d'être le successeur de Flaubert et de Maupassant. Et donc il écrit des nouvelles, il y a toute une série d'œuvres de Maurice Leblanc qu'on ne lit plus beaucoup, qui sont des romans sentimentaux, des nouvelles qu'il a publiées au début. Celle qui a survécu, c'est le formidable événement, où il raconte, c'est un peu de la science-fiction, que la Manche s'est asséchée et qu'on peut aller à pied de Normandie en Angleterre et qu'on découvre des choses préhistoriques qui se sont révélées. Enfin, c'est très bien. Et puis, il a le malheur, un peu par jeu, d'écrire une première aventure d'Arsène Lupin. Et là, le piège se referme parce que, comme vous le disiez, hein, le personnage s'empare de lui et on est dans le cas d'un héros de fiction qui devient plus célèbre que son auteur. Voilà, donc c'est un peu la même histoire, mais l'insistance sur la tradition littéraire, l'idée que ces personnages qui sont un renouveau du roman à cette époque-là héritent des grands héros de la vraie littérature, entre guillemets, je crois que c'est très important. Hein, l'idée que Balzac, sans le vouloir, invente le roman policier, avec L'Auberge Rouge, qui est la première nouvelle qui décrit une chambre fermée à clé avec un cadavre à l'intérieur et le sang qui goutte à travers les lattes du parquet, c'est Balzac. Une ténébreuse affaire, l'envers de l'histoire contemporaine, c'est des romans de Balzac, mais c'est aussi les premiers romans policiers français.
Et puis, si on regarde le personnage de Vautrin aussi,
évidemment,
c'est une sorte d'ancêtre de tous ces personnages Vautrin, qui se déguisent.
Lupin, et Lupin est un nom que Balzac emploie, d'ailleurs.
Et en plus, c'est vrai que ce que vous disiez à l'instant, la vraie littérature, bon, c'est toujours très, très rigolo à entendre employer, où commence, où s'arrête.
J'ai mis des guillemets, parce qu'on défend tous cette idée que c'est la littérature, la tradition du roman continuée par d'autres moyens.
Balzac était un feuilletoniste.
Bien sûr.
Voilà.
Il n'y a pas d'un côté un roman qui serait le roman populaire et de l'autre. Et quand on lit des nouvelles de Leblanc, on comprend que ça vaut la construction de certaines nouvelles de Maupassant.
Hein. Et je vous ai entendu dire quelque chose de très intéressant à la Grande Librairie où vous parliez de la Pléiade.
Ah oui, ça serait bien.
Et ça, j'ai trouvé vraiment ça très, très bien.
L'idée que en Pléiade, le roman policier est arrivé avec le commissaire Maigret.
Oui.
Il y a les deux volumes de Simenon, et parce qu'il y a une tradition NRF de Simenon, etc.
Voilà, qui est devenue tout d'un coup une institution. Et
André Gide, qui n'avait jamais ouvert un roman policier de sa vie, a dit « mais c'est génial, c'est formidable ». En revanche, Maurice Leblanc se fait attendre, peut-être parce qu'il y a une rancœur. C'est-à-dire que Maurice Leblanc avait inventé un personnage d'inspecteur ridicule qui poursuit Lupin et n'arrive jamais à le coffrer. Et pour se moquer à la fois de son vieil ami Paul Gallimard et de son fils Gaston Gallimard, qui avait 20 ans à l'époque, il a inventé l'inspecteur Ganimard, ce qui a ensuite rendu furieux toute cette honorable famille, au point que quand Lupin est passé au théâtre, Leblanc a accepté que ça devienne Guerchard. Et vous vous souvenez, dans les feuilletons... qu'on regardait autrefois à la télévision, quand la télévision existait encore avec Georges Descrières. Bon, l'inspecteur, c'était Guerchard.
Oui, oui, oui.
Voilà. Donc moi, j'avais besoin de l'équivalent parce que mon Arsène Lupin vit en 2015 et c'est un Lupin du 21e siècle. Et donc, en pensant à Antoine Gallimard aujourd'hui qui préside Gallimard et Flammarion, je l'ai baptisé Gallimarion.
Il fallait bien tenir voilà. compte, mais oui, c'est ça.
Mais c'est pas comme ça qu'on va vers c'est pas comme ça qu'on va vers la Pléiade. Je crois que voilà.
Oui, mais bon.
Il y a un contentieux.
Qui... Vous continuez à nourrir justement le sournoisement, le contentieux. Ça, c'est vraiment pas bien du tout. Moi, non, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que revenir sur un héros, oui, mais bien souvent la tentation est de le relancer là où on l'a laissé, dans son époque et dans son temps et dans ses vêtements, qui en plus sont quand même très emblématiques pour Lupin.
C'est ce qu'ont fait avec beaucoup de talent Boileau et Narcejac. Oui. Hein, ils ont fait 5 volumes d'aventures d'Arsène Lupin. Qui sont un peu des pastiches, des pastiches admiratifs, qui viennent de ressortir aux éditions du Masque. Et puis, il y a eu Michel Zinc, qui a publié un Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval. Donc, il y a eu des résurrections.
Michel Zinc, le médiéviste ?
Le professeur d'histoire de la littérature
médiévale
au Collège de France, qui est un passionné de Leblanc, qui a tout lu, qui connaît tout par cœur, qui chaque année va à la remise du prix Arsène Lupin à Étretat. Qui a lieu d'ailleurs le vendredi de la semaine prochaine, si certains d'entre vous veulent venir découvrir le Clos Lupin. C'est le lieu où toute la secte se rassemble. Vous voyez du monde entier arriver des
passionnés. C'est une secte très normande quand même, parce que quand vous parliez...
Alors c'est un peu trop normand pour vous, oui.
Pas pour moi, je peux dépasser les limites de la Bretagne. Non, mais quand vous parliez quand même des trois grands, Flaubert, Maupassant, Leblanc...
C'est aussi une région.
Tiens, il y a quand même... Oui. C'est presque un pays, ça.
Oui, exactement, oui. Une famille littéraire.
En tout cas, je voulais juste rajouter que je trouvais très bien qu'on reprenne le personnage d'Arsène Lupin et qu'on lui fasse revivre des autres vies, des nouvelles vies. Parce qu'autant on l'a beaucoup fait pour Sherlock Holmes et ça a participé aussi.
Ouais, que beaucoup de succès, la BBC a fait
le genre,
cette série
formidable. Pour la BBC et la télévision.
Bénédicte Cumberbatch.
Il y a eu, dès la, du vivant même de Conan Doyle, Maurice Leblanc a fait le personnage de
Herlock Sholmès.
Conan Doyle n'était pas content, mais enfin, il a bien été obligé de laisser faire ce que Maurice Leblanc a tenu bon.
C'était aussi un hommage.
Mais on a pastiché très très vite des nouvelles aventures de Sherlock Holmes, donc du vivant même de Conan Doyle, et donc à sa mort, a fortiori, ben, ça a aussi participé au fait que ce mythe Sherlock a été vivifiant jusqu'à nos jours. Et ça, pour ça, les Anglais savent faire.
Et puis le monde anglo-saxon est quand même vaste par rapport au monde francophone, je veux dire.
Lupin est connu au Japon, Lupin a des avatars étranges.
Il est très connu, mais les Français ont des réticences à prendre à bras le corps leur littérature populaire et la revivifier sans arrêt. Et les Anglais ont moins de scrupules à le faire. D'abord, ils le font avec talent toujours, et ça permet de faire en sorte que ces personnages-là perdurent.
Je pense que Lupin, d'abord, c'est un personnage résolument moderne, c'est-à-dire que autant il y a eu un bon fait en avant avec le Sherlock Holmes dont on parlait dans les téléfilms récents, où c'était limite sacrilège pour certains de sortir Holmes de son époque. Et Lupin, c'est quelqu'un qui bouge en fait finalement avec la société, avec tout ce contexte social qu'il y a derrière. Donc c'est vrai qu'il pourrait être, qu'on pourrait le ressortir, le mettre à jour, il n'y aurait rien à faire en dehors de changer quelques modèles de voitures dans les choses comme ça. Mais je pense que c'est aussi qu'en France, comme on en parlait tout à l'heure en toile de fond, il y a ce vieux fantôme de la culture générale et ce qui ne fait pas partie de la culture générale. Alors, et puis, il y a des choses qui sont fixées. Alors, on dit que poil de carotte fait partie de la culture générale. Et puis d'autres choses. Non, mais ça reste
moi,
un
je
peu
ne crois qu'en la culture personnelle.
J'en suis entièrement
ce qu'on a lu entre 13 et 17 ans.
En France, il y a aussi peut-être un peu le culte de ce qui est un peu ennuyeux.
Ça, je ne sais pas, oui, peut-être. Mais
parfois, je me pose la question en littérature.
En tout cas, il y a eu un barrage jusqu'à il y a quelques décennies récentes. Il y a eu un barrage. Et ça veut dire aussi qu'une partie de gens qui pourraient lire ces romans, alors je ne parle pas de Lupin qui est connu, mais tout ce fond de roman qui est intéressant, qui parfois n'a pas été réédité depuis le début du 20e, pourrait passionner des foules, mais simplement, on ne sait pas que c'est là.
Oui, on ne sait pas que c'est là. Peut-être qu'il y a quand même une petite mise à jour dans le vocabulaire, dans le style qui... Voilà, on va moins vers ça. Moi, je me rappelle quelqu'un que j'adorais quand j'étais gosse, c'était Paul Divoy, Les Semeurs de glace et autres. C'est vrai que quand je le relis, j'ai toujours du plaisir, mais je pense que c'est sur mes souvenirs que je fonctionne. Et que, c'est stupide à dire pour un auteur parce qu'on ne va pas tailler dans son texte, mais une mise à jour, un toilettage.
C'est un peu vrai pour les Fantômas aussi.
Les Fantômas aussi, parce que...
Alors que ni Conan Doyle, ni Maurice Leblanc
n'ont bougé.
N'ont vieilli.
Non,
exactement. Encore aujourd'hui les donner à lire à quelqu'un de 14 oui. ans, et il y trouvera la...
Ah, ça marche très très bien.
Donc, il n'y a pas de trop longue description, le parce que les dialogues sont efficaces.
Le problème avec les fantomas, c'est que la façon dont ils ont été écrits...
Oui. Hein, il y a du remplissage. Voilà, ouais.
Du remplissage, oui. Souvent, oui. Ou dictaphone.
Littérairement, enfin, c'est moins bon.
Oui. Pas le dictaphone. Oui. Enfin, avec un système enregistré.
C'est ça, oui.
Mais les premiers volumes de Fantomas n'ont pas vieilli d'un poil. Hein. C'est quand même étonnant. Oui. Hein. D'ailleurs, moi, les gens, Paul Divois, Jean de Lahire, c'est des auteurs qui sont complètement tombés dans l'oubli, mais leurs bouquins sont absolument
extraordinaires. Non, en inventivité.
Et c'est vrai qu'en France, on a un fonds
que vous allez nous
en
parler,
fond littérature populaire qui est extraordinaire et qui demande vraiment qu'à faire. Ce qu'a fait Colin et Lehmann en BD pour remettre à jour le personnage du dictalope est absolument magistral.
Je suis tombé, je l'avais jamais lu en faisant mes recherches sur le livre, sur un personnage de Arnoux Galopin qui s'appelle. Non, j'ai un trou. Qui a une sorte de fantomas de l'époque, et alors qui s'appelle Ténébras, voilà, je cherchais le mot dans tous les as. Et Ténébras, c'est pas plus ringard que Fantomas, c'est à peu près écrit à la même époque, et je me demande d'ailleurs si c'est pas écrit avant, et ça tiendrait la route, et ça n'a pas été réédité depuis des lustres.
Le cinéma avait modernisé Fantomas.
C'est-à-dire l'intervention du cinéma.
Quand on voit Fantomas avec Louis de Funès et Jean Marais, c'est transposé dans les années.
D'où un problème d'ailleurs, parce que une partie du public moderne connaît ce fantôme. Non, mais d'ailleurs, il est appréciable d'ailleurs ce fantôme-là qui a des qualités propres, mais ça a gommé, ça a effacé, c'est venu écraser l'autre fantôme.
Il y a une dimension terrible qui faisait beaucoup plus peur dans
Pour ce que j'en sais d'ailleurs, parce que j'ai croisé quelques réalisateurs et producteurs quand j'écrivais mon livre, d'ailleurs, c'est un problème qui se pose pour le retour de Fantomas aujourd'hui au cinéma français, c'est-à-dire qu'il y a une partie des producteurs qui voudraient bien ramener Fantomas, mais si on en fait quelque chose dans la tradition de celui de Funès, alors il faudrait aller demander à Danny Boone ou je ne sais qui. Et puis il y a une partie des réalisateurs qui, eux, voudraient bien aller vers ce Fantomas littéraire beaucoup plus noir, et il y a une espèce de... Voilà, dès qu'on essaie de monter un projet de retour de cinéma, de Fantomas au cinéma, ça coince là, parce que les deux camps ne se mettent pas d'accord.
Et c'est vrai que l'empreinte est quand même très très forte, hein, d'autant plus qu'on nous les rediffuse avec une grande régularité. Qu'on les regarde d'ailleurs avec un enchantement tout à fait coupable, mais on en profite quand même. C'est le même syndrome que La Marquise des Anges, dans un autre genre. On n'en rate pas une fois la diffusion, sachant qu'on regarde. Bon, bref.
Et qu'on rit,
bien sûr, et qu'on attend de rire aux mêmes endroits, que je ne pense pas que le projet premier pour Fantomas c'était de faire rire.
Non, je pense pas non plus.
Ça ne paraît pas du tout.
Quand on lit les premiers, c'est Ben Laden. Hein,
il est terrible.
Non, mais c'est ça. Il y a un des romans où il détourne. La rame de métro n'arrive jamais à la station suivante. Alors il cherche et il se rend compte qu'il y a une galerie perpendiculaire qui a été creusée, et donc on fait tomber la paroi, et on trouve dans cette galerie une espèce de voie artificielle qui a été construite, et là dedans il y a la rame, et il y a tous les voyageurs de la rame qui ont été égorgés, éventrés, pour pouvoir leur voler leur âge. Ah, je vous avais dit, c'est pas drôle, hein.
Non, mais c'est vraiment beaucoup plus dur qu'on imagine.
En même temps, Fantomas, il se donne beaucoup de mal pour arracher quelques colliers, je trouve, mais voilà.
Quoi. Oui, Lupin a beaucoup.
Ce qui est frappant dans ces trois exemples, c'est les dimensions scientifiques aussi. C'est-à-dire que Sherlock a une analyse scientifique, et il a aussi ses instruments entre son microscope. Il y a cette manière de voir les choses, l'invention du métro. Dans Arsène Lupin, il installe le téléphone dans l'aiguille creuse, il part en sous-marin. Il y a cette dimension, Jules Verne, il pilote lui-même des voitures qui sont des voitures de... C'est un héros qui vit à 30 à l'heure.
Mais c'est Lupin.
Il est lancé. Bon, et ça, c'est quelque chose qui contribue à rendre actuel côté Jules Verne.
Pour nous, ça rend actuel, mais je suppose que dans les années de parution, c'était une magie aussi.
Oui, c'est la magie, merveilleux scientifique.
Magie mécaniste, me permettre.
C'est aussi pour éviter une critique qui était faite à l'époque. Il y a une certaine, on peut parler d'un roman post-Jules Verne d'une certaine manière, c'est que. Certaines des prévisions de Jules Verne s'étant réalisées, le développement du sous-marin, des choses comme ça, c'était devenu une sorte de passeport de raconter des choses extravagantes, en les raccordant à la science, en disant ben voilà, moi aussi je raconte quelque chose qui à 10 ou 15 ans nous attend.
Moi, ça m'a beaucoup plu.
Et ça permettait d'éviter des critiques, parce que quand c'est super intéressant de lire les livres de critiques. Il y avait un type qui s'appelait l'abbé Bethléem qui tenait une revue qui s'appelait Roman à lire et à proscrire. je peux vous garantir que les articles à proscrire, les articles à proscrire, c'est super intéressant d'ailleurs quand
on. Mais c'est le roi de la publicité, ça.
Parce qu'il est indexé. Mais c'est les pauvres romanciers se font incendier pour tout et son contraire.
Bah oui.
Donc rattacher la chose à la science, c'est dire oui, je fais des choses extravagantes, même si c'est mais si j'ai cette carte de science, combien même science qui n'est pas réalisée à ce moment-là, ça me permet de dire attention. C'est pas de la magie, ça sort pas de nulle part, c'est peut-être possible.
Sauf qu'après, on tombe directement les savants fous dévoyés et qui eux-mêmes font partie ou créent quelques-uns de ces super-héros.
Bah, tout à l'heure, on parlait des gens qui se sont fait écraser par leur création. C'est marrant parce que c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans ces personnages-là. Il y a par exemple Ponson du Terrail qui a créé Rocambole au XIXe siècle. Alors, Rocambole, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le précurseur à la fois de Cherry Bibi, de Fantomas, un petit peu de Sherlock Holmes. C'est un repris de justice, c'est un type terrible dans les premiers romans. Ça passe d'abord en feuilleton dans la presse quotidienne. Et puis il y a un moment où Ponson du Terrail s'enlace. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il finit le dernier roman, qu'est-ce qu'il pense être le dernier roman avec son personnage qui est défiguré. On lui balance du vitriol ou je ne sais plus quel produit à la figure. Il finit rejeté en prison et lui-même se repent parce que pour une vague histoire d'amour, il comprend qu'il a fait le mal. Et voilà, il finit au fond du cachot, il est défiguré, il ne sortira plus jamais. Mais le public en demande. Alors donc, dans le roman suivant, il ressort de prison, il réalise le mal qu'il a fait, il décide de se racheter.
Et donc,
Ponson du Terrail n'arrive pas à éteindre la chose.
Ah oui.
Et arrive au bout de. Comme il a été obligé de redémarrer la chose un petit peu de manière, forcée, forcément, le roman de suite n'a pas exactement le même succès, n'a pas exactement la même classe. Il faut que le public s'y habitue. Donc, un ou deux chapitres plus tard, il explique que si le roman de la sortie n'était pas si bon, c'est que le vrai Rocambole avait arrêté de lui écrire. Parce qu'il était en prison. Il était en prison ou en Angleterre, je ne sais plus à ce moment-là. Donc le pauvre Ponson du Terrail est obligé d'inventer des histoires. Mais voilà, le vrai Rocambole a repris la correspondance et il peut désormais nous raconter, nous témoigner des aventures qui se produisent vraiment. Donc voilà.
C'est ça le vrai piège en fait de ces personnages, c'est que les écrivains qui les ont inventés en général ont eu une position un petit peu distante par rapport à la. Ils se sont toujours mis en scène en tant que non pas l'écrivain qui imagine. Mais l'écrivain qui ne fait que transcrire des histoires qui se sont réellement produites.
Le biographe, le mémorialiste.
Pour garder une vraie place dans la galaxie littéraire de leur époque.
Conan Doyle jouait aussi avec ça.
Bien sûr.
Il disait Sherlock Holmes, si vous avez. Il a tellement été pris au piège qu'il recevait des courriers de la terre entière pour lui demander, monsieur, puisqu'en gros il se faisait passer pour une sorte d'agent littéraire de Watson. Qui transcrivait les histoires que Sherlock Holmes menait avec lui. Donc les lecteurs l'avaient pris au mot et donc pensaient que Conan Doyle était vraiment l'agent littéraire de Sherlock Holmes et lui envoyait des courriers où on le disait, voilà, je crois qu'il a reçu des courriers, j'en parle dans le bouquin, de Laponie, de Russie, enfin de partout. À la mort de Conan Doyle, les gens continuent à écrire et il y a un sondage qui est sorti il y a 2 ans en Angleterre où je pense que c'est hallucinant, 65% de la population britannique pensait que Sherlock Holmes avait réellement existé. Donc c'est devenu, c'est tellement ancré dans l'inconscient collectif des gens que ce sont des personnages qui sont devenus des êtres vivants qui ont vécu un moment, qui sont morts et dont les auteurs, Conan Doyle, Maurice Leblanc ou les autres, n'ont été que les scribes,
les porte-plumes.
En quelque sorte. Les porte-plumes.
Là, je voudrais une question maintenant un tout petit peu plus pratique. Quand vous avez choisi les nouveaux exploits, c'est très étonnant parce que vous en avez qui sont complètement modernes. Je passe à l'épisode Facebook.
Je voulais prolonger ce merveilleux scientifique. Donc il fallait qu'il y ait Facebook, qu'il y ait des tablettes, qu'il y ait.
Mais il y en a par contre un qui est le premier qui est tout à fait dans la lignée avant de l'ancien Arsène, c'est la façade de la cathédrale.
C'est ça, mais en même temps, il y a une manifestation d'anti-pub à Strasbourg avec la bâche publicitaire qui a transformé la cathédrale de Strasbourg en publicité géante pour une machine à laver de marque allemande. Et là, les anti-pubs de toute l'Europe se réunissent, la bâche se déchire, donc c'est le lever de rideau du roman, et apparaît non pas la façade de la cathédrale de Strasbourg, mais son absence, il n'y a plus de statue,
il n'y a plus rien.
Décor. Lupin a volé la façade de la cathédrale de Strasbourg.
Et en même temps, lui-même n'est pas tellement favorable à cette publicité allemande, parce qu'on retrouve quand même cette espèce de sentiment anti-germanique.
Mais oui, mais ça,
qui habitait un peu le blanc, non ?
Évidemment, c'est... bien sûr. Oui. C'est le Lupin qui se moque du Kaiser et du Crown Prince. Oui, j'ai gardé des éléments comme ça de... qui font l'identité d'Arsène Lupin, et ça ne l'empêche pas de s'intéresser aux, aux travaux de biologie moléculaire du jeune Beautrelet.
Beautrelet, bien sûr, enfin, oui.
Voilà, j'ai fait ce... Je voulais pas faire un pastiche, je voulais que ça non. soit un Lupin d'aujourd'hui.
Mais qu'on retrouve ayant... les fils qui...
Et que ce soit le même, c'est-à-dire que jamais Maurice Leblanc n'a raconté la mort d'Arsène Lupin. Non. Donc du coup, il n'y a aucune raison qu'il soit mort. Moi, je prétends que non seulement il a existé, mais il existe encore... aujourd'hui.
Oui, c'est parce ça que c'est ce fil qui court, alors voilà. Je sais pas, est-ce que vous allez continuer ou pas, mais il y a ce fil de l'immortalité qui est toujours en question.
Parce qu'il est confronté à la Cagliostro.
Voilà.
La Cagliostro, la comtesse de Cagliostro, c'est Joséphine Balsamo, et elle vient d'Alexandre Dumas. Elle est la fille Joseph de Balsamo. Joseph Balsamo, celui du Collier de la Reine, celui des quatre romans que Dumas a consacrés à la Révolution, et qui possède l'élixir d'immortalité. Oui. Donc, il est normal qu'elle soit toujours là, sauf que la femme fatale de 1910 qui avait séduit Lupin et qui ensuite devenait sa rivale est devenue en 2015 une féministe très engagée, oui. militante, une chef d'entreprise et aussi une femme cougar.
Elle va emballer le jeune Beautrelet d'une façon.
Elle emballe le jeune Beautrelet et donc tout ça réactualise, je crois, les personnages sans leur donner, sans que ce soit des pastiches quoi. Enfin, c'est un jeu constant.
C'est un jeu et en même temps,
je l'ai écrit comme un divertissement.
On retrouve quand même bien les codes qu'on a aimés. C'est ça qui est important.
Voilà, c'est ce que je voulais faire. Retrouver ces codes.
Oui. Et maintenant, on va passer à Xavier qui. Je voudrais quand même savoir déjà. Cette espèce de somme là, moi, m'a absolument ébloui.
Il ne vaut pas si cher que ça.
j'ai pas dit laquelle somme. non, vraiment. C'est vrai que votre sujet m'intéressait un peu, mais je ne prétendais pas connaître, je croyais connaître quelques petites choses, et je connaissais que quelques petites choses, justement. Quand je vois tout ce que vous avez rassemblé, des choses que je pense inimaginables pour la plus grande partie du public.
Moi, l'idée m'est venue, parce que avec mon autre casquette, le reste du temps, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui traite de comic books, donc plutôt de super-héros américains. Et puis de temps en temps, je faisais une petite chronique sur, on va dire, le régional de l'étape. Il y avait toujours un ou deux personnages français qui traînaient par là. Et à chaque fois, je faisais un article. Et puis, il y avait toujours le gars d'avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une recherche pour un article, je trouvais au passage un gars d'avant. Donc, ça me titillait un peu. Et puis, il y a 7 ou 8 ans en arrière, j'ai fait un article sur un super-héros qui s'appelle Fantax, qui est le principal super-héros de l'après-guerre. Qui est aussi le principal super-héros qui a souffert de la pression morale et de la censure dans l'après-guerre. Et j'interviewais la famille de l'auteur qui s'appelle Pierre Mouchot, qui lui est décédé depuis les années 60. Et puis je les sens très, très fébriles. Donc il y a un moment quand même ça fait tilt et je leur demande pourquoi. Et le petit-fils me dit, vous comprenez, c'est la première fois qu'il va y avoir dans un magazine un article sur le grand-père qui ne soit pas à charge. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient vu dans la presse jusque-là, enfin, ça fait longtemps qu'il n'y avait rien eu, mais tout ce qu'il y avait eu avant, c'était pour le traité de limite de pédophile, de type qui racontait des choses horribles aux enfants, qui voilà. Et c'est la première fois qu'il y avait. Et je me dis, mais en fait, l'histoire de ce type-là, qui avait été par ailleurs résistant, qui avait été lui-même une sorte d'incarnation du héros avant d'en produire, je me dis, ce type-là, finalement, son histoire n'a jamais été racontée. Et il y en avait
qu'est-ce
d'autres.
Que c'est Fantax alors ?
Alors Fantax, c'est un cousin de Batman, c'est le Lord Nebourg, c'est supposé être un Anglais qui est ambassadeur à l'ONU, et puis dès qu'il voit passer un gangster ou un truc un peu louche, il enfile un costume qui ressemble à un pyjama rouge et noir, avec un grand F sur le
truc. Avec le slip par-dessus ?
Alors,
non, ne me dites pas qu'il y a le slip par-dessus.
C'est signé Furax, mais c'est
signé Fantax. Et de manière assez surprenante, d'ailleurs on ne sait pas bien pourquoi, il y a un épisode où c'est sa femme, parce que lui il est marié, et sa femme qui partage le secret de son identité, enfile le costume et va en mission, tandis que lui il reste à faire diversion sur un épisode. Ça commence un peu comme un truc très féministe, et puis ils se sont calmés là-dessus. Et donc ce personnage-là, par contre, c'est de la BD. Ça vaut le coup d'être précisé par rapport aux autres personnages dont on parlait tout de suite, donc c'est très visuel. Et puis après les années 40, après la guerre, les auteurs, même parfois les lecteurs, ont vu quand même quelques horreurs, donc on y va franco. C'est-à-dire que quand Fantax poursuit une civilisation oubliée qui vit encore dans des pyramides, on ne sait pas trop, dans la pampa, enfin des choses comme ça. Quand il attaque une peuplade, il décapite à coups de pelle. Il y a une case fameuse où il est comme ça avec la pelle à la main et c'est calme-toi sinon je te décapite à coups de pelle. Et puis alors des fois c'est au sabre, enfin il y a des variantes. Et c'est quand même c'est un petit peu violent, mais surtout surtout ça c'est dans un contexte où Fantax, il y a des épisodes par exemple où il lutte contre le Ku Klux Klan, où il fait ami-ami avec des noirs qui sauvent d'autres d'anciens nazis, enfin de choses comme ça. Donc c'est assez assez hybride, et à l'époque il faut savoir que ce genre de BD là était perçu de manière très négative par la droite de la droite, qui trouvait pas normal que des blancs aillent copiner avec des noirs, et puis par la gauche de la gauche, qui trouvait pas normal que finalement des blancs aillent coloniser les noirs. Donc il y a eu une union sacrée qui a provoqué la... Il faut savoir qu'à la base de la loi de 1949 qui régit les publications sur la jeunesse encore aujourd'hui, c'était une démarche des conservateurs des deux extrémités qui voulaient empêcher d'une part les revues américaines et puis ce genre d'histoire-là. Et donc Fantax, en 1949, l'éditeur a vu le coup arriver, a vu la loi qu'elle est passée, a dit bon, il faut arrêter. Et là, la particularité de ce personnage-là, c'est qu'il a une fin. La fin a été imposée, non pas par le... Tout à l'heure, on parlait des fins où le public demande un redémarrage, mais là, la fin a été imposée par ces lois qui arrivaient. Et donc, il fait quelque chose de très original, c'est-à-dire qu'il raconte vraiment la fin de Fantax. C'est-à-dire Fantax, ses enfants sont enlevés par un gangster, il se précipite pour essayer de les sauver, il n'arrive pas à sauver sa jeune fille, il arrive à sauver que le fils. Et le dernier épisode, c'est devant la pierre tombale de cette fille, et l'épisode se finit avec Fantax qui jure de ne plus jamais porter son costume. C'est une BD qui s'adresse à des enfants de 12 ans. Donc vous imaginez le déchirement de ces enfants. Et on n'a pas vraiment les chiffres de circulation de cette BD-là, mais on sait que le fan club comptait environ 10 000 enfants. Donc ça vous donne une idée de la chose. Donc imaginez ces X fois 10 000 enfants en train de découvrir leur héros qui a perdu et qui décide de raccrocher. Alors pour la petite histoire, en 59, l'éditeur s'est dit, il y a quand même, peut-être que la censure s'est calmée. Donc en lisant le journal, Lord Nebourg découvre un indice qui lui révèle que peut-être sa fille est vivante. Et à ce moment-là, le vieux Murph, le domestique, qui est l'équivalent d'Alfred chez Batman, arrive avec le costume sur un plateau et lui dit, je crois que monsieur, il est temps de remettre le costume.
Alors qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil de lecture dans tout ce que vous avez... était le seul à lire depuis des années.
Pas le seul, mais...
Qu'est-ce qui mérite aujourd'hui d'être...
Il y a des choses magnifiques qui pourraient être imprimées. Il y a un roman féministe de 1909 qui s'appelle Loisel, le L apostrophe, donc c'est le féminin de l'oiseau. C'est une jeune fille qui a un costume noir, une combinaison noire avec des ailes mécaniques qui lui permettent de voler au-dessus de Paris. Une ceinture à gadgets avec des petites pilules qui lui permettent de ne pas manger, de ne pas dormir, un système de vision nocturne. Et ce truc est super féministe parce que d'abord, il était publié dans un magazine pour femmes. Et à l'époque, les magazines pour femmes, je suis désolé pour vous, mesdames, mais c'était plutôt de la mode et des recettes.
Oui, des tricots
et
des
wishes. Oui, voilà. Et donc, il y a ce truc qui est paru en feuilleton à l'intérieur où elle s'évertue à sauver son fiancé qui, lui, est la potiche. C'est les rôles sont complètement inversés.
Wonder Woman.
Et pour en revenir à cet abbé Bethléem dont je parlais tout à l'heure, qui est une sorte de véritable super vilain, lui, il n'a pas manqué le roman, vous pensez bien, donc la revue roman à lire à proscrire, imaginez dans quelle catégorie est tombé Loisel. Bon, donc moi je tombe là-dessus, je me dis, il va le laminer parce qu'une femme qui vole avec des ailes mécaniques, une sorte de Batwoman de 1909, ça ne va pas passer. Non. La critique, c'est que ce roman est dangereux parce qu'il va, donner l'envie aux femmes d'avoir des aventures et donc de quitter la cuisine. Les ailes mécaniques, on s'en fout.
C'est vrai que c'est fâcheux. Ouais. Bien le dire.
Et ce roman-là, à part un vague chapitre où je pense qu'elle a été pressée de finir parce qu'il fallait finir vraiment en décembre, donc il y a un moment où on parle d'Atlantide qui émerge de l'eau et puis on oublie aussi vite, donc c'est assez maladroit sur ce passage-là. Mais le reste, je lisais ce roman-là en me disant mais où est la bande dessinée, où est le film, parce que c'est en enlevant quelques phrases rococo comme on le disait, c'est moderne aussi.
C'est toujours c'est prêt à être lu. Non, moi je me demandais justement là quand vous avez fait forcément un choix, une sélection, un départ. Et, on parlait de Monte Cristo tout à l'heure. voilà, dans la littérature, le super-héros s'arrête, commence quand.
Et voilà, il fallait chercher le curseur. Des gens plus intelligents que moi avaient déjà creusé la piste du fait que Monte Cristo était le grand-père de Batman.
Oui.
Que quand on regarde bien, il y a l'identité secrète, il y a les bases secrètes, il y a même certaines fois le masque, il y a la vengeance familiale, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, en relisant les anciennes éditions, parce que je me suis dit, je ne vais pas faire un livre en allant chercher sur Wikipédia, je vais passer à côté de plein de choses. Donc j'ai lu les vieilles éditions, et dans les vieilles éditions, il y a une postface signée de Dumas, ou alors d'un de ses collaborateurs qui aura signé à sa place, et qui explique que ça part d'un fait divers. Donc je me suis lancé à la recherche du fait divers. Et il y a mon vrai patient zéro, les vraies premières pages du livre, sont basées sur un monsieur Picot, qui vers 1807-1808 aurait été arrêté par dénonciation, par erreur, aurait fait de la prison, serait sorti en disant « Oh là là, ils vont voir ce qu'ils vont voir » et serait revenu à Paris en se faisant passer pour un serviteur pour essayer de se venger des hommes qui l'ont dénoncé. La grosse différence, c'est que ça finit pas très bien. Il arrive à se venger de 2-3, mais finalement, le dernier le reconnaît. Et là, ils se disent ils doivent avoir de l'argent, donc ils le torturent à mort pour essayer de lui faire avouer où est le magot. C'est pas drôle non plus. Mais ils ont décidé de prendre cette base-là pour faire Monte Cristo. Et en cherchant ce monsieur Picot, c'est là où finalement il y a l'ADN de tous ces trucs-là. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être me détromper ou aller dans mon sens, je ne sais pas. Mais quand on regarde bien ce qui s'est passé au XIXe siècle, qui est le fils de la Révolution française, c'est-à-dire que c'est le siècle où on en est encore à digérer des choses qui sont passées quelques temps auparavant, où on n'arrête pas de changer de régime. Plus de régime d'État, c'est-à-dire que c'est pas simplement on passe d'un président de droite à un président de gauche ou le contraire, c'est on passe de l'Empire à retour à la monarchie, à la République, à l'Empire. Il y a aussi à côté de ça le début d'une accélération du progrès, le début d'une reprise de l'urbanisme, et ça veut dire que des gens qui sont trentenaires ou quadras, ils ont vu une société, ils ont vu des fois deux ou trois sociétés.
Chateaubriand a connu
combien de régimes ? Arsène Lupin est un métis social dont la mère, oui. Henriette d'Andrézy, se rattache aux grandes familles de l'histoire de France et le père est un professeur de gymnastique.
Ils habitent dans des...
Mais la royauté reste quand même la base.
Oui.
Ils habitent dans des villes plus grandes et différentes de celles qu'ils ont connues dans leur enfance. Et il y a un personnage qui est réel, qui est très intéressant à regarder, c'est Vidocq.
Oui, quand vous pensiez d'Ancorbol, on pense à Vidocq.
Vidocq commence, et d'ailleurs il a inspiré des choses à Balzac puisqu'il se connaissait. Vidocq commence à...
Vidocq, c'est Vautrin, oui.
Carrément, c'est ça.
Le moment où Arsène Lupin devient chef de la sûreté, c'est ça.
C'est un clin d'œil, bien sûr.
Vidocq, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type qui commence comme ennemi public, peut-être pas numéro un, mais qui commence comme bagnard, et qui, à la faveur de ses revirements, de ces choses comme ça, de ses... tous les 10 ou 15 ans, on fait un nettoyage, les salauds d'avant deviennent les gens qui sont au pinacle et inversement, devient le premier flic de France, à force d'enquête, de choses comme ça aussi. Et quand on comprend ça, on comprend que ce siècle-là, il a une vraie différence dans la notion d'identité. C'est-à-dire que vous trouvez des héros épiques, des types un peu forts, des surhommes dans la Bible, dans la mythologie. Vous trouvez des Robin des Bois, vous trouvez des choses comme ça. Mais le type qui change d'identité dans les légendes, dans les contes, en général, c'est un chevalier qui se déguise en mendiant le temps de passer un pont-levis. C'est Ulysse qui rentre lui aussi en mendiant sur Ithaque le temps de dégommer les rivaux.
Les prétendants.
Voilà. C'est toujours... le déguisement ne sert que vraiment dans l'instant pour cette astuce-là, parce que il faut se faire reconnaître tel qu'on est. Au 19e, c'est autre chose. Au contraire, c'est une sorte d'ascenseur social. Le pauvre va se faire passer pour riche et arriver à tromper la société des riches. Et le riche va se faire passer pour pauvre, aller dans les bas-fonds et tromper la société des brigands. Et il y a ce côté polymorphe qui se met en place et qui est finalement le résultat de la société de l'époque.
Et Sherlock aime beaucoup les bas-fonds. Il a son côté Dickens aussi.
Il se déguise de la même façon. Ce que tu racontes est tout à fait vrai. De toute façon, tous ces personnages-là, effectivement, ne sont jamais uniques.
Oui, mais encore pour cela, on sait un peu l'allure qu'ils ont, mais dans ce que vous citiez, il y a ce dont on ne sait jamais le visage.
C'est le cas de Fantomas. Et là, on peut faire la différence, par exemple, avec Lupin. Lupin, à travers les masques, il y a quand même l'affirmation d'identité. Il y a toujours le caractère de Lupin qui est transmis. Fantomas, c'est un trou, c'est un gouffre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune...
C'est méchant.
Il n'y a aucune identité. Il n'y a pas seulement ça. C'est que, en dehors de la, du dernier roman vraiment écrit par les deux auteurs, où il y a cette scène dans une reprise du Titanic. Alors c'est un navire qui s'appelle le Gigantique qui est en train de couler. Et c'est à ce moment-là que l'inspecteur Juve, celui qui gesticule dans les films de Funès, mais qui est plus proche de Sherlock Holmes dans les romans, découvre, apprend de la bouche de Fantomas, que Fantomas, en fait, est son frère. Et il meurt dans les secondes qui suivent dans le naufrage du bateau. Mais c'est finalement la seule fin qui était satisfaisante. Et comme ils ont été obligés de continuer, enfin comme l'un des deux a été obligé de reprendre et de continuer, il n'y a pas de fin. Il n'y a plus d'identité qui arrivait à vous satisfaire tellement le gouffre est fascinant. Donc je ne sais plus qui j'avais lu en faisant mes recherches, quelqu'un avait écrit que si Fantomas et Arsène Lupin arrivaient à se croiser sur une place, ils se dégoûteraient mutuellement. Parce qu'il y en a un qui est l'affirmation de
l'identité. Une très belle scène.
Je suis incapable de vous dire la source, mais quelqu'un avait écrit ça. Et parce qu'il y en a un qui est l'affirmation d'une identité malgré les masques, et l'autre, c'est vous n'arrêtez pas de peler le légume. Il y a des masques sous les masques.
Mais écoutez, je crois que c'est une très très belle conclusion. Comme je vous disais, on en parle depuis ce matin, l'ennemi, c'est le temps qui nous joue des tours à tous. Donc il reste 10 minutes pour les questions. N'hésitez pas, on est loin d'avoir dit tout ce qu'on aurait souhaité dire, mais... Attendez, on va vous donner un micro pour que la salle entende.
Oui, au cours de du débat, vous avez dit que certains auteurs s'étaient laissés, dévorer un peu par leurs personnages. Alors, est-ce que vous trois, enfin, peut-être, je ne connais pas, super-héros, peut-être pas, mais est-ce que vous deux aussi, qui avez créé des personnages, craignez un jour d'être dévorés par votre
Moi, je ne sais pas si je vais être dévoré, mais la façon dont ça s'est passé est plutôt drôle, je vous la raconte, c'est que bon, au départ, j'avais pas du tout idée de faire une série. C'est un roman donc, pour lequel j'avais élaboré une histoire qui ne pouvait se passer qu'en 1932, eu égard à la mort de Conan Doyle qui devait déjà être effective. Et donc, j'ai inventé mes personnages en fonction de cette intrigue-là. Mon personnage principal, Andrew Singleton, est canadien parce qu'il était le fils d'un des spirits qui était en lien avec le groupe Spirit. D'où est sortie la photo dont je vous ai parlé au début. Son acolyte était américain parce qu'à un moment, il se rencontre dans l'université de Boston, etc. Et c'est un manuscrit que j'ai envoyé à la poste à 10-18 en me disant, c'est l'éditeur chez qui j'aimerais être édité. Donc avant de voir ce que ça peut devenir, envoyons-le à 10-18. Et l'éditeur m'a dit, écoute, c'est très bien, ton bouquin est formidable, il faudrait juste que les personnages puissent les faire revivre parce qu'il y a matière à faire une série. Ce que je n'avais pas décidé au départ.
Oui.
Donc moi, c'est pas que je suis pris au piège d'un truc où il me tarde qu'une chose, c'est les liquider. C'est le contraire, c'est qu'au départ, moi, je n'avais pas imaginé que ça pourrait être une série. C'était une histoire que j'avais envie de raconter, parce que c'était l'histoire que j'avais en tête, qui me rendait hommage à tous les écrivains, tous les personnages qui m'ont toujours fasciné depuis l'adolescence, et que j'avais, c'est le bouquin qu'en tant que lecteur, j'aurais aimé lire. Sauf qu'il a fallu que je fasse une suite. Donc je suis rentré dans le jeu, et puis maintenant, ça fait 6 volumes, dont le dernier où je les envoie à Hollywood, donc je les éloigne de plus en plus de leur territoire d'origine, donc je ne suis pas prisonnier, en tout cas... L'idée au départ n'était pas mienne de faire une série. A priori, oui.
Moi, je commence à croire que Lupin rôde et qu'il est là et qu'on peut l'aider peut-être dans cette salle. Ce matin, j'ai vu le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve. Qui
oui, oui, il était là.
Serait-ce lui ?
Voilà. Et ce midi, le ministre de la Justice, Mme Taubira.
Alors là, non, je ne pense pas que le déguisement d'Arsène Lupin aille jusqu'à...
Moi, je crois que si.
Alors, c'est bluffant. Oui.
C'est bluffant, mais oui. C'est bluffant. Et
qu'avez-vous pensé, je crois que c'est chez 10-18 aussi, de cette série où Oscar Wilde mène des enquêtes avec...
Les enquêtes d'Oscar
avec
Wilde.
Avec Conan Doyle.
Moi, j'ai beaucoup aimé ça, oui.
Le nom de l'auteur m'échappe.
Giles Brandes.
Voilà. Oui. Enfin, moi, j'en ai lu 3, je crois que je ne sais pas s'il y en a eu plus.
C'est très, très, très bien.
C'est bien, ça.
C'est très, très bien.
Il a imaginé, en fait, que... Oscar Wilde était en réalité le vrai prototype, enfin le vrai personnage de la réalité, à partir duquel Conan Doyle se serait réimaginé son personnage.
Mais avec des côtés très agaçants quand même, parce que les costumes, ce qui aurait pu
être possible, puisque Conan Doyle connaissait Oscar Wilde, et il y a cette fameuse scène que je raconte dans le premier bouquin où un agent littéraire va faire un dîner dans un restaurant où va être invité Arthur Conan Doyle. Oscar Wilde, donc, et c'est de ce dîner-là que va cet agent littéraire va plus ou moins commanditer le bouquin qui va être à l'origine de Sherlock Holmes, le portrait d'Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et il y en a un troisième qui était présent qui a écrit un autre chef-d'œuvre de la littérature victorienne, mais je ne l'ai pas en tête. Donc, si ça revient, si quelqu'un l'a, qui me le dise.
Moi, je peux vous dire, vous disiez un peu moins les super-héros, mais à ma grande surprise, dans mes recherches, je suis tombé sur des vrais super-héros. Non, mais rigolez pas, c'est vrai. C'est que en faisant mes recherches, par exemple, j'avais pris le principe de m'intéresser à lire la presse de l'époque pour savoir d'où les auteurs pouvaient tirer leur inspiration. Et à ma grande surprise, en 1867, il y a eu un phénomène qu'on a appelé la mascomanie, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens masqués à Paris que les journalistes, bien sûr en exagérant un peu, disaient qu'on bientôt on ne verrait plus la différence avec Mardi Gras. Et il y a eu un personnage qui a défrayé la chronique. Alors il y a eu des dizaines d'articles dans le Figaro de l'époque, une femme qu'on appelait l'Amazon masquée, qui circulait à cheval, habillée en noir, avec un espèce d'emblème d'aigle, deux sabres. Ils n'ont jamais su ce que c'était. Et ça a défrayé la chronique. Et j'ai fini. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques personnes qui s'inspirent des super-héros aujourd'hui pour aller dans la rue, aider les sans-abri, des gens dans le besoin, des trucs comme ça. Il y en a une vingtaine à Paris. Et mon dernier chapitre, en fait, il est passé en compagnie de ces gens-là. Parce qu'il y a finalement des gens qui se sont inspirés eux-mêmes des écrits et qui ont matérialisé ces choses-là. Donc les interactions entre la fiction, la réalité, la folie et le cartésien, il n'y a pas de frontière finalement. C'est depuis 20 ou 30 ans, ouais, effectivement. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est revenu. Alors les catcheurs, ça vient de la France. C'est au moment où le Mexique était sous domination française. Il y avait un truc en France qu'on appelait la lutte gréco-romaine. Et il y a un personnage dont je parle dans le livre qui s'appelait l'homme masqué, dont les gens pensaient que c'était peut-être Napoléon III. Qui allait se battre dans des arènes masquées comme ça et dont on ne savait pas l'identité. Et la pratique, elle est partie en Amérique comme ça.
Aujourd'hui, sur Facebook, on peut avoir 15 identités. Et c'est le nouveau masque d'aujourd'hui. Des fausses photos et vous créez une autre vie. Il y a une question de monsieur là-bas, je vois une main.
Oui, c'est une question que je me suis posée quand on regarde les héros de romans policiers, par exemple aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, et de cette époque, donc de l'époque dont vous êtes en train de parler. Pourquoi y en a-t-il autant, en pourcentage, si je puis dire, en France, qui sont en fait plutôt de l'autre côté de la loi ? Vous regardez Fantomas, Arsène Lupin, Chéri Bibi, etc. C'est un nombre énorme finalement quand on compare à ceux qui sont du côté des policiers ou des détectives privés, etc.
Du côté de la loi ?
Non, de l'autre côté de la loi.
Pourquoi
y a tant de hors la loi dans les héros français par rapport à ceux qu'on trouve à la même époque en Grande-Bretagne et aux États-Unis ?
Je pense qu'il y en a une certaine partie qui sont dans. Ça va d'ailleurs dans ce sens protéiforme, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de personnages qui sont justement des anciens bagnards ou des méchants sur les premiers romans qui ont une épiphanie au bout du troisième ou quatrième et qui virent de bord. Donc ça serait plutôt ce côté multiforme, sans visage qui passionne, je crois, parce qu'on en trouve des limiers, il y en a quelques-uns, mais qui font plutôt partie de ces romans qu'on pas refait surface. Alors peut-être qu'à ce moment-là on peut se dire que c'est un critère qui les a empêchés de reparaître, mais il y en a un certain nombre de justiciers ou de lumiers.
Oui, on peut être de l'autre côté de la loi, comme vous le disiez, avoir une haute idée de la justice, et Lupin agit toujours pour la justice. Il cambriole, mais uniquement les escrocs et les malhonnêtes. Et il est à la fois patriote, généreux.
Oui, il y a toujours un Robin des Bois qui traîne derrière. Quoi.
Puis, pour parler juste du personnage de Sherlock Holmes, il est du côté du bien, quelquefois, c'est limite. Il a un côté sociopathe que la série anglaise a bien mis en valeur. qui le fait de temps en temps basculer du côté obscur de la force. Et ce qui était drôle, c'est que Conan Doyle avait son neveu qui a inventé un personnage qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Raffles, et qui était l'équivalent un peu anglais d'Arsène Lupin, et qui était, lui était du côté noir, puisque c'était un cambrioleur, de la même façon qu'Arsène Lupin l'était en France. Avant, d'ailleurs, je pense que Maurice Leblanc, tout à fait, c'est un peu inspiré de Raffles, du personnage de Raffles pour Arsène Lupin. Donc, les deux existent, mais c'est vrai que vous avez raison, le côté britannique a souvent mis en valeur des personnages qui sont du côté du bien. Ceci étant dit, la littérature victorienne, bon voilà, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est aussi la littérature qui a mis en, sur le papier la théorie de l'inconscient, les forces qui surgissent.
On a parlé des romans gothiques.
Non, le roman gothique, il y avait tout ça, bien sûr. Oui.
Donc vous avez raison en un certain sens, mais voilà, c'est plus compliqué.
C'était canalisé ailleurs aussi, éventuellement. C'est... Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter malheureusement là, une fois encore.
Continuer la conversation dans la ville.
On peut continuer dans la ville, on peut continuer dans la cour de l'école, on peut continuer sur les stands si vous voulez, ce que je ne vous recommanderais que trop d'ailleurs. Donc on va remontrer les livres, sauf que pour le vôtre, Adrien, je n'ai pas le... Parce que je l'ai depuis longtemps et qu'il n'était pas encore sorti sur sous son... Donc on le montre moyennement, ce n'est pas la couverture définitive. Voilà, c'est ça. Et là, celui-là d'ailleurs, épreuve, hein, c'était... C'était les épreuves corrigées, oui. On ne peut pas tout recevoir au dernier moment, ça serait un tout petit peu compliqué. Mais bon, allez sur les stands et vous verrez les livres sous leur forme définitive. Et ben, écoutez, tout ce qui me reste à vous, d'abord à vous remercier de votre présence, de votre écoute, de vos questions pour ceux qui en ont posé. Et surtout, ben, je vais vous demander bien sûr d'applaudir nos trois auteurs. De les applaudir avec vraiment beaucoup de gratitude parce que vous nous donnez une belle littérature et qui nous apporte un infini plaisir. Preuve que les deux choses peuvent marcher ensemble quand même. Merci beaucoup.